Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 69, Daf Samer Tet. Bonne écoute et bon limoud.
La Gemara répond, Velitamer, et selon toi, qui veut interpréter ainsi la Mishnah, Shelo Haya Psulo Bakodesh Leitu Yemai, que vient inclure la suite de la Mishnah qui dit, lorsqu'il s'agit d'un type d'invalidité qui ne survient pas dans la cour du sanctuaire, que vient inclure ce passage? Et là, plutôt, c'est cela que tu devras dire, Recha, le début de la règle générale, Leituye Shritat Kodashim Bifnim, vient inclure le cas de sacrifices, donc d'oiseaux désignés comme sacrifices, qui ont été égorgés à l'intérieur du sanctuaire. C'est un cas qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. Nous apprenons de là donc que l'oiseau désigné comme sacrifice qui a été égorgé à l'intérieur du sanctuaire n'est pas considéré comme étant le cadavre d'un oiseau et ne transmet pas d'impureté lorsqu'une personne l'avale. Et cela pour les raisons que la Gemara expliquera par la suite. Sefa, la fin de la Mishnah, donc la deuxième partie de la règle générale, les ituye melikat chulin bachut, cela vient inclure le cas d'un oiseau profane qui a été sacrifié de cette manière, donc dont le cou a été sectionné à l'extérieur du sanctuaire. C'est aussi un cas qui n'est pas enseigné clairement dans la Mishnah. Mais dans ce cas, cet oiseau sera considéré comme étant le cadavre d'un oiseau qui transmet l'impureté lorsqu'une personne l'avale. Tania Kevate de Rabbi Yochanan. Il a été enseigné une braïta qui correspond à l'opinion de Rabbi Yochanan. La braïta dit comme suit. Malkah Zar, si c'est un étranger qui n'est pas Kohen, qui a sacrifié cet oiseau en sectionnant son cou, ou bien Malkah Pasoul, ou bien si c'est un Kohen inapte à effectuer le service qui a sacrifié cet oiseau, Hapigoul, ou bien si cet oiseau qui devait être offert comme sacrifice a été invalidé par l'intention invalidante du Kohen qu'il serait offert ou consommé après le moment prévu par la Torah pour le faire, Vehanotar, ou bien lorsqu'il s'agit d'un oiseau qui devait être offert comme Korban Khatat et qui est resté après le moment prévu par la Torah pour sa consommation, Vehatame, ou bien si ce sacrifice est devenu impur, En Metamin Abetablia, ils ne transmettent pas l'impureté lorsqu'une personne l'avale. Donc, du début de la Braïta, nous voyons comme l'opinion de Rabbi Yochanan que lorsqu'un étranger qui n'est pas Kohen qui a sacrifié l'oiseau, nous ne considérons pas cet oiseau comme étant le cadavre d'un oiseau. Et la fin de la Braïta nous enseigne que même si le sacrifice a été invalidé par la suite, nous ne dirons pas que puisqu'en général, un oiseau qui a été abattu de cette manière est considéré comme étant le cadavre d'un oiseau. Cependant, dans le cadre de l'offrande d'un sacrifice, il est permis de le consommer. On pourrait penser que si le sacrifice a été invalidé, il est donc interdit à la consommation. Il redevient le cadavre d'un oiseau. C'est pour cela que la Braïta précise que dans le cas où le sacrifice a été invalidé, quand même, il garde le statut d'un oiseau qui a été sacrifié et n'a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Zvachim Daf Samechet. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim Daf Samechet à la sixième ligne du haut de la page. Nous avons vu dans le daf précédent une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan concernant le cas où un étranger qui n'est pas Kohen a sacrifié un oiseau destiné à être offert comme Korban. Leur discussion est à savoir, est-ce qu'il s'agit d'une invalidité totale? Par conséquent, cet oiseau a l'impureté du cadavre d'oiseau qui se transmet lorsqu'on l'avale, ce qui est l'opinion de Rav, ou bien il ne s'agit pas d'une invalidité totale. Par conséquent, cet oiseau n'a pas l'impureté du cadavre d'oiseau. Ceci est donc l'opinion de Rabbi Yochanan. Il y a un autre point qui dépend de cette discussion. En effet, si l'invalidité de l'oiseau sacrifié par un étranger qui n'est pas Kohen est une invalidité totale, si on le fait monter sur l'autel pour l'offrir, on devra le refaire descendre. Mais s'il ne s'agit pas d'une invalidité totale, si on l'a fait monter par erreur sur l'autel, il pourra y rester. Alors la Gemara poursuit. Amar Rav Yitzhak, Shamati Shtaim, j'ai entendu deux choses. Achat Kmitzat Zar, une concernant le prélèvement effectué par l'étranger qui n'est pas Kohen sur l'offrande à base de farine. Donc il a rempli sa poignée avec cette farine. Vachat Melikatzar et une concernant l'oiseau sacrifié par un étranger qui n'est pas Kohen. Achat Tered, à propos d'une de ces deux choses, j'ai entendu que si on l'a offert par erreur sur l'autel, on devra le refaire descendre. Vachat Lotered, tandis que pour l'autre, j'ai entendu que si on l'a offert sur l'autel par erreur, on n'a pas besoin de le faire descendre, donc il ne s'agit pas d'une invalidité totale. Veloedana, et je ne sais pas lequel des deux est une invalidité totale et lequel des deux ne l'est pas. Amar Chizkia, Mistabra, il est logique de dire que Kmitsa, le prélèvement effectué par l'étranger qui n'est pas Kohen sur l'offrande à la base de farine, Tered, si on l'a offert sur l'autel par erreur, on devra le faire descendre car il s'agit d'une invalidité totale. Melika, mais s'il s'agit d'un oiseau qui a été sacrifié par un étranger qui n'est pas Kohen, Lotered, on ne devra pas le refaire descendre si on l'a offert par erreur sur l'autel, car il ne s'agit pas d'une invalidité totale. Alors, la Gemara demande, Maïshana Melika, quelle différence y a-t-il? Pourquoi en ce qui concerne l'oiseau sacrifié par l'étranger qui n'est pas Kohen, nous disons qu'il s'agit d'une invalidité qui n'est pas totale, de Yeshna Bebama, car finalement, ce type de service existe dans un hôtel privé et il peut être effectué par un étranger qui n'est pas Kohen. Et c'est donc la raison pour laquelle nous disons qu'il ne s'agit pas d'une invalidité totale. Kmitsa nami yeshnar bebama. Même le prélèvement avec la poignée de la main sur l'offrande à base de farine existe aussi dans l'hôtel privé. Il s'agit donc d'un type de service qui existe dans un hôtel privé qui peut être effectué par un étranger qui n'est pas Kohen. Par conséquent, il ne devrait pas s'agir d'une invalidité totale. Vechitema, si tu veux me répondre, en mincha bebama. Qu'en fait, dans l'hôtel privé, on ne peut pas offrir d'offrande à base de farine. Si c'est ainsi, en ofot nami bebama. Il n'existe pas non plus de sacrifice d'oiseaux sur l'hôtel privé. De amar Rav Sheshet, car Rav Sheshet a dit, les divrei haomer yesh mincha bebama, selon l'avis qui dit qu'il existe des offrandes à base de farine dans l'hôtel privé, yesh ofot bebama, on peut aussi offrir des sacrifices d'oiseaux sur l'hôtel privé. Les divrei haomer en mincha, mais selon celui qui dit qu'il n'y a pas d'offrande à base de farine sur l'autel privé, en ofot, on ne peut pas offrir de sacrifice d'oiseau non plus sur l'autel privé. Maïtama, pourquoi? Car en fait, nous apprenons d'un pasouk dans Shemot Kavdalet, le type ou les types d'offrandes qui existent sur l'autel privé. En effet, les Bnei Israël ont offert des sacrifices sur un autel privé dans les jours qui ont précédé la réception de la Torah. Et le pasouk dit, Vaisbechu, Zevachim, etc. Et ils ont offert des offrandes. Donc, celui qui applique ce pasouk à la lettre, il dit donc, Zevachim, des sacrifices, Velom, Nachot, et non pas des offrandes à base de farine. Si c'est ainsi, le pasouk est aussi interprété de la même manière pour dire, Zevachim, des sacrifices, Velom, Ofot, et non pas des oiseaux offerts comme sacrifice. Donc finalement, comment peut-il y avoir de différence entre l'offrande à base de farine et celle de l'oiseau? L'Agma répond, et là, Emma, plutôt, tu diras, la raison pour laquelle, lorsque l'étranger qui n'est pas Kohen a effectué le prélèvement avec la poignée de sa main sur l'offrande à base de farine, il s'agit d'une invalidité totale, c'est parce que, en kiddush bikli sharet bemincha bebama, même s'il existe une offrande à base de farine dans l'hôtel privé, mais l'action qui suit, qui est celle de sanctifier ce prélèvement dans un ustensile de service, n'existe pas pour l'offrande à base de farine dans l'hôtel privé, car les ustensiles de service n'existent que dans le sanctuaire. Par conséquent, ce type de service qui est le fait de sanctifier ce prélèvement dans un ustensile de service n'existe pas dans l'hôtel privé. Donc si ce service qui suit immédiatement le prélèvement a été effectué par un étranger qui n'est pas Kohen, le sacrifice, donc cette offrande, a été invalidée et il s'agit d'une invalidité totale. Si on offre par erreur cette offrande sur l'autel, il faudra la faire redescendre. Tandis que pour les oiseaux offerts comme sacrifice, ce type de sacrifice existe dans l'autel privé. Par conséquent, il s'agit d'un type de service qui peut être effectué par un étranger qui n'est pas Kohen. Il ne s'agit donc pas d'une invalidité totale. Si on a offert cet oiseau par erreur sur l'autel, on pourra le laisser, on n'aura pas besoin de le faire redescendre. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Malak bismol obalaila » Si le Kohen a sacrifié l'oiseau en sectionnant son cou, en utilisant sa main gauche ou pendant la nuit, le sacrifice est invalidé. Cependant, Il ne s'agit pas d'une invalidité totale. Par conséquent, il n'a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau qui se transmet en l'avalant. Nous noterons que lorsque nous parlons de l'impureté du cadavre de l'oiseau, il s'agit d'un type d'impureté grave qui se transmet non seulement au corps de la personne qui l'avale, mais aussi aux habits qu'il porte à ce moment. Alors la Gemara dit, Tanoura Banan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Yachol tehe melika shehi lifnim. Est-il possible de dire que la sacrification de l'oiseau en sectionnant son cou, qui est effectuée à l'intérieur de la cour du sanctuaire, Metam'a begadim bevetablia, est-ce que le cadavre de cet oiseau transmet l'impureté au corps et aux habits que la personne porte lorsqu'elle l'avale? Il s'agit d'un cas où le sacrifice a été invalidé, car si le sacrifice est valable, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un cadavre d'un oiseau, puisque le sacrifice est agréé. La Breta répond, Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit dans Vaikra Yudzaïn, ce pasouk parle, comme il est expliqué dans le recueil de Braïtot, qui interprète les psukim de Vaikra, et qui s'appelle Torah de Kohanim, de l'impureté transmise par le cadavre de l'oiseau. Le pasouk dit, et la personne qui consommera Nevela ou Trefa, un cadavre, donc d'un oiseau, ou bien celui qui est atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa, il devra laver ses habits et se lavera dans l'eau, donc s'immergera dans un bain rituel et restera impur jusqu'à la tombée de la nuit. Alors premièrement, la Braïta interprète le terme Nevela, donc qu'il s'agit d'un cadavre d'un oiseau, lorsqu'il s'agit d'un sacrifice. La Breta comprend que ce n'est pas un cadavre d'un oiseau. Alors la Gemara demande, Hanami Nevelahi, cet oiseau, donc ce sacrifice qui a été invalidé, peut être aussi considéré le cadavre d'un oiseau, puisque rien ne nous dit que cette sacrification est valable. Alors la Gemara répond, et là plutôt, c'est ainsi qu'il faut lire dans la Breta, Talmud Lomar Trefa, c'est pour cela que le Pasuk dit Trefa, il emploie le terme donc, de l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa. Or, on ne peut pas dire que le pasouk voulait parler réellement d'un oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa, car de son vivant, donc du vivant de l'oiseau, il n'y a pas d'impureté. Et si nous considérons cet oiseau atteint d'une blessure mortelle comme étant mort, donc étant un cadavre, le pasouk a déjà employé le terme de nevela pour désigner cet oiseau. Donc ce terme tréfa est en plus pour nous enseigner la chose suivante. Ma trefa she'en materet et ha'isur. De même que le statut de trefa ne permet aucune interdiction qui existait auparavant. Afkol, ainsi toute situation d'un oiseau qui a été abattu ou sacrifié, il transmet l'impureté du cadavre de l'oiseau dans le cas où she'en materet et ha'isur, où il s'agit d'une sacrification qui n'a levé aucune interdiction. Yatsa melika she'ilifnim, on exclura le cas de l'oiseau qui a été sacrifié en sectionnant son cou à l'intérieur de la cour du sanctuaire, même s'il s'agit d'un sacrifice invalidé, ho'il vehi materet et ha'isur, puisque cette sacrification lève une interdiction. En effet, lorsqu'il s'agit d'une invalidité qui n'est pas totale, cet oiseau, si on le fait monter sur l'autel pour y être sacrifié, on ne le fera pas redescendre. Finalement donc, cette sacrification a levé, pour ainsi dire, l'interdiction d'offrir cet oiseau sur l'autel. Par conséquent, en metame begadim bevetablia, cet oiseau ne transmet pas l'impureté aux habits que porte la personne lorsqu'elle l'avale. Hevi, nous allons donc inclure les cas où les oiseaux qui ont été abattus auront l'impureté du cadavre d'oiseau. Il s'agit des cas de Hamolek. La Gemara présente une abréviation qui va permettre de mémoriser les lois suivantes. L'abréviation est Katz Chefetz. La première abréviation, Kuf Tzadik, fait allusion à Kodshim Bachutz. Le Tzadik fait allusion à Chutz, l'extérieur. La deuxième abréviation, Chefetz, fait allusion à Chulin, donc des oiseaux profanes qui ont été sacrifiés en sectionnant le cou. Le P fait allusion au Pnim, à l'intérieur du sanctuaire. Et le Tzadik fait allusion à Chutz, donc à l'extérieur du sanctuaire. Donc, l'Agmara dit, nous allons inclure les cas de cadavres d'oiseaux qui ont été abattus, Hamolek, donc qui ont été abattus en sectionnant le cou, Kochim Bachutz, s'il s'agit d'oiseaux sacrés et ils ont été sacrifiés à l'extérieur du sanctuaire, ou Molek, Chulin, ou bien celui qui sectionne le cou d'oiseaux profanes, Ben Mi Bifnim, Ben Mi Bachutz, soit à l'intérieur du sanctuaire, soit à l'extérieur du sanctuaire. Dans ces cas donc, Ho'il ve'en matirin et haïsour, puisque l'abattage de ces oiseaux n'a levé aucune interdiction, car ils sont interdits à la consommation. Metam'in begadim abet ablia, ils transmettront l'impureté même aux habits de celui qui les porte lorsqu'il avale ses cadavres. Tanya idach, il a été enseigné une autre braïta. Yachol tehe shritat chulin lifnim, pourrait-on penser que l'égorgement d'oiseaux profanes à l'intérieur du sanctuaire Vekodashim ben mi bifnim ben mi bachutz et des oiseaux sacrés qu'on aura donc égorgés soit à l'intérieur du sanctuaire soit à l'extérieur du sanctuaire metam'a abet ablia, est-ce que le cadavre de ces oiseaux qui sont interdits à la consommation transmettent l'impureté du cadavre d'oiseau lorsqu'on l'avale? Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit, toujours dans Vaikra Zayin, il s'agit du même pasouk que nous avons interprété précédemment, le pasouk dit Nevela, le cadavre d'oiseau, comme nous l'avons expliqué précédemment. Et apparemment, la Braïta comprend que ces oiseaux qui ont été égorgés ne sont pas considérés comme des cadavres d'oiseaux. Alors la Gemara demande, Hanami Nevelaï, puisque ces oiseaux sont interdits à la consommation, ils devraient être considérés comme étant des cadavres d'oiseaux et devraient donc transmettre l'impureté. Alors la Gemara répond, et là plutôt, Talmud Lomar, c'est ainsi qu'il faut lire la Braïta, Trefa, le pasouk. Ajoute le terme de tréfa, qui est un oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa, et comme nous l'avons expliqué précédemment, ce terme est en plus, pour nous enseigner la chose suivante. Ma tréfa, de même que l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa, chavé bifnim kebachutz, a les mêmes lois à l'intérieur du sanctuaire qu'à l'extérieur du sanctuaire. Dans les deux cas, donc, l'oiseau est interdit à la consommation. Afkol. Ainsi, tous les cas d'oiseaux qui ont l'impureté du cadavre d'oiseau doivent avoir cette particularité, Shavot Bifnim Kebachutz. Il faut que les lois les concernant soient les mêmes à l'intérieur du sanctuaire et à l'extérieur du sanctuaire. Yatsa Shritat Chulin Bifnim. Nous exclurons donc de cette règle générale et de l'impureté du cadavre d'oiseau le cas d'oiseaux profanes qui ont été égorgés à l'intérieur du sanctuaire. Vekodashim ben mibifnim ben mibachutz est le cas d'oiseaux sacrés qui ont été égorgés soit à l'intérieur soit à l'extérieur du sanctuaire. Ho'il velo shavu bifnim kebachutz, puisque les lois les concernant ne sont pas les mêmes à l'intérieur du sanctuaire comme à l'extérieur du sanctuaire. En metamin begadim abet ablia, ils ne transmettent pas l'impureté du cadavre d'oiseau aux habits de celui qui les porte lorsqu'il avale ces cadavres. Alors la Gemara demande, Bishlama Chulin, on comprend bien le cas d'oiseaux sacrés qui ont été égorgés à l'intérieur du sanctuaire, Loshavu Bifnim Kebachutz. Les lois les concernant ne sont pas les mêmes à l'intérieur du sanctuaire comme à l'extérieur du sanctuaire. En effet, l'oiseau profane qui a été égorgé à l'extérieur du sanctuaire est permis à la consommation, tandis que celui qui a été égorgé à l'intérieur du sanctuaire n'est pas permis à la consommation. Cependant, ce que la Gemara veut dire, puisque l'égorgement de cet oiseau le permet à la consommation lorsque cet égorgement est effectué à l'extérieur du sanctuaire, même lorsqu'il est effectué à l'intérieur du sanctuaire, cet oiseau n'aura pas le statut de cadavre d'oiseau. Et là, Kodashim, mais en ce qui concerne les oiseaux sacrés, idi veidi psulim ninhu, soit dans ce cas, donc lorsqu'ils ont été égorgés à l'intérieur du sanctuaire, soit dans l'autre cas où ils ont été égorgés à l'extérieur du sanctuaire, ils sont de toute façon des sacrifices invalidés et sont interdits à la consommation. Pourquoi n'ont-ils donc pas le statut et l'impureté du cadavre d'oiseau? La Gemara répond, Amar Rava, Im ho ila lo shritat chutz lechaivo karet, si l'égorgement de cet oiseau sacré, lorsqu'il est effectué à l'extérieur du sanctuaire, a servi à le condamner à la peine du retranchement dans le monde futur, comme tout cas de celui qui sacrifie un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire. En effet, comme la Gemara l'explique plus loin, Daf Kufzaïn Amud Alef, nous apprenons d'un pasouk dans Vaikra Yudzaïn que celui qui égorge un oiseau sacré à l'extérieur du sanctuaire est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur. Donc, puisque cet égorgement a servi à quelque chose, l'oto illo l'etahara midenevela, ce même égorgement ne servira-t-il pas à purifier cet oiseau de l'impureté du cadavre d'oiseau? En effet, si nous considérons qu'il a sacrifié un sacrifice à l'extérieur du sanctuaire et non pas simplement tuer le sacrifice, et c'est pour cela donc qu'il est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur, nous pouvons considérer que cet égorgement est aussi valable pour annuler l'impureté du cadavre d'oiseau. Ashkechan Chutz, nous avons trouvé une preuve pour purifier l'oiseau sacré qui a été sacrifié à l'extérieur du sanctuaire, Pnim Menalan, d'où sait-on que s'il a été sacrifié, donc égorgé à l'intérieur du sanctuaire, que l'impureté sera annulée. Là-dessus, nous répondons, Ho'il velo shavu bifnim kebachutz, c'est parce que les lois concernant ces oiseaux égorgés ne sont pas les mêmes lorsque l'égorgement a eu lieu à l'intérieur du sanctuaire et à l'extérieur du sanctuaire. En effet, à l'extérieur du sanctuaire, celui qui le fait est condamné à la peine du retranchement dans le monde futur, tandis que celui qui l'a fait à l'intérieur du sanctuaire n'est pas condamné à cette même peine. Mais en tout cas, puisque l'égorgement de l'oiseau sacré sert à quelque chose à l'extérieur du sanctuaire, comme nous l'avons vu, et annule l'impureté du cadavre animal, il en sera de même pour l'oiseau sacré qui a été égorgé à l'intérieur du sanctuaire. Alors la Gemara demande, Yahi, si c'est ainsi, Malak Kodashim Bachutz, celui qui sacrifie un oiseau sacré en sectionnant son cou à l'extérieur du sanctuaire, Namilo ne devrait pas non plus avoir l'impureté du cadavre animal, de lo shavu pnim kebachutz, car les lois concernant cet oiseau ne sont pas les mêmes à l'intérieur du sanctuaire et à l'extérieur du sanctuaire. En effet, lorsque l'oiseau sacré est sacrifié de cette manière à l'intérieur du sanctuaire, il s'agit d'un sacrifice valable, tandis que s'il est effectué à l'extérieur du sanctuaire, ce sacrifice est invalidé. Mais en tout cas, puisque ce type de sacrification est une sacrification valable à l'intérieur du sanctuaire, même lorsqu'elle est effectuée à l'extérieur du sanctuaire, il ne devrait pas avoir l'impureté du cadavre d'oiseau, selon le raisonnement que nous avons vu précédemment. La Gemara répond, Amar Rav Shimi Barashi, Danin Davar Shelo Behershero, nous apprenons les lois de quelque chose qui n'est pas valable, Mi Davar Shelo Behershero, d'une autre chose qui n'est pas valable, Ve'en Danin Davar Shelo Behershero, mais nous n'apprenons pas quelque chose qui n'est pas valable, Mi Davar Shebehershero, de quelque chose qui est valable. C'est-à-dire, puisqu'il est question de décider qu'un abattage qui n'est pas valable, donc qui ne permet pas l'oiseau à la consommation, n'entraîne pas le statut du cadavre d'oiseau, nous devons forcément l'apprendre et le comparer à un autre abattage d'un oiseau qui n'est pas valable et donc qui ne permet pas l'oiseau à la consommation et quand même n'entraîne pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. Par conséquent, on ne peut pas déduire que celui qui abat un oiseau sacré en sectionnant son cou à l'extérieur du sanctuaire n'entraîne pas l'impureté du cadavre de l'oiseau en le comparant au même type d'abattage qui se passe à l'intérieur du sanctuaire où il s'agit d'un sacrifice qui est valable. Ceci ne pourra pas être une preuve que lorsque cet abattage n'est pas valable, car il est effectué à l'extérieur du sanctuaire, il n'y aura pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. Donc, selon Rav Shimi Barashi, comme le précise la Shita Mukubetset, lorsque nous avons dit précédemment que l'oiseau profane égorgé à l'intérieur du sanctuaire n'a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau, ce n'est pas parce que nous l'avons comparé au cas de l'oiseau profane qui a été égorgé à l'extérieur du sanctuaire, car dans ce cas, cet abattage est valable et permet l'oiseau à la consommation, mais plutôt, nous le comparons et nous l'apprenons donc du cas de l'oiseau sacré qui a été égorgé à l'intérieur du sanctuaire et donc dont la sacrification ou l'égorgement ne permet pas l'oiseau à la consommation et quand même l'impureté du cadavre de l'oiseau n'existe pas dans ce cas. On pourrait aussi, comme l'explique le Zivre Ephraim, le déduire du cas de l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend très fat, qui a été égorgé à l'extérieur du sanctuaire, où là aussi il s'agit d'un abattage qui ne permet pas l'oiseau à la consommation, et quand même, il n'y a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. Cependant, comme le précise le Tosfot, nous ne pourrons pas déduire du cas de l'oiseau sacré qui a été abattu à l'intérieur du sanctuaire, la nuit, par exemple, où il s'agit donc d'un sacrifice invalidé, et donc quand même, cet abattage ne permet pas l'oiseau à la consommation, et il n'y a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau, on ne peut pas déduire de là que si cet oiseau sacré a été abattu de la même manière à l'extérieur du sanctuaire, l'impureté du cadavre de l'oiseau n'existera pas. Car dans le cas où il s'agit d'un sacrifice invalidé par exemple, lorsqu'il a été sacrifié la nuit, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'un sacrifice valable puisqu'il est agréé sur l'autel si on le fait monter sur celui-ci par erreur. Il est vrai que, comme nous le verrons dans la Mishnah suivante, que l'oiseau sacré qui a été sacrifié à l'intérieur du sanctuaire, et il s'est avéré qu'il était atteint d'une blessure mortelle qui le rend très fat, il n'y a pas l'impureté du cadavre animal selon l'opinion de Rabbi Meir. On ne pourra quand même pas déduire de ce cas que si cet oiseau a été sacrifié de la même manière à l'extérieur du sanctuaire, que l'impureté du cadavre de l'oiseau n'existera pas, car comme l'explique le Zivre Ephraim, en sectionnant le cou de l'oiseau, il devient de toute façon très fat. Il s'agit donc d'une dérogation spéciale pour les oiseaux offerts comme sacrifice, qu'ils doivent être sacrifiés de cette manière. Par conséquent, il est possible que cette dérogation a été élargie, de manière à ce que, si cet oiseau est atteint d'une autre blessure mortelle qui le rend très fat, il n'y a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. On ne pourra pas déduire de là que si un oiseau sacré a été abattu de cette manière à l'extérieur du sanctuaire, où ce type d'abattage n'existe pas, que cette dérogation existe, et donc que l'impureté du cadavre de l'oiseau n'existera pas. En tout cas, comme nous l'avons expliqué, la réponse de Rav Shimi Barashi était que lorsque nous voulons déduire qu'un abattage non valable n'entraîne pas l'impureté du cadavre de l'oiseau, il faut le déduire d'un autre cas où l'abattage n'est pas valable. On ne pourra pas le déduire d'un endroit où ce type d'abattage est valable. Alors la Gemara demande, Velo, n'apprend-on pas une loi concernant un sacrifice qui n'est pas valable, des lois du sacrifice qui est valable? Vatania, pourtant, il est enseigné dans une braïta. Minain leyotse, d'où sait-on que le sacrifice qu'on a fait sortir de l'enceinte de la cour du sanctuaire, chez Im Allah, que si on l'a fait monter par erreur sur l'autel alors qu'il a été invalidé, l'oyered, on ne le fera pas redescendre. Ce sacrifice sera donc agréé. La braïta répond, Shehare yotse kasher bebama, car le principe de sortir de l'enceinte est valable lorsque le sacrifice est offert sur un autel privé. Car en fait, dans l'autel privé, il n'y a pas d'enceinte où le sacrifice doit se trouver. Nous voyons donc bien que nous comparons et nous apprenons des lois concernant un cas où le sacrifice n'est pas valable, des lois d'un sacrifice qui est valable. L'Agma répond, Tana, l'auteur de cette braïta, Azot Torat Haola Riba Samichle, s'appuie sur le pasouk dans Vaikravav qui dit, voici la règle concernant le korbanola. Cette expression est superflue et inclut tous les cas où le sacrifice est invalidé, qui sera agréé donc sur l'autel. Cependant, puisque le terme zot, ceci, est une exclusion, il faut donc déterminer quel cas la Torah a voulu inclure et quel cas a voulu être exclu par la Torah. Et en fait, comme nous l'avons mentionné dans le DAF précédent, que partout où le sacrifice est invalidé dans le cadre de l'offrande d'un sacrifice, donc par exemple après qu'il a été sacrifié, il sera agréé sur l'autel. Donc par exemple, le cas où le sacrifice est sorti de l'enceinte après avoir été sacrifié. Mais lorsque l'invalidité n'est pas causée dans le cadre de la sacrification du sacrifice, par exemple lorsqu'elle existait avant, si l'animal est infirme, dans ce cas, le sacrifice ne sera pas agréé. Nouvelle Mishnah, Malak Venimtset Trefa. Si le Kohen a sacrifié un oiseau désigné comme sacrifice en sectionnant son cou, il s'est avéré que cet oiseau était atteint d'une blessure mortelle qui le rend très fat. Donc finalement, il est interdit à la consommation et ne peut pas être offert sur l'autel. Rabbi Meir Omer, Eno Metame Bebet Ablia. Cet oiseau ne transmet pas l'impureté du cadavre de l'oiseau en l'avalant.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Samertet Amudbet. Rabbi Yehuda Omer, Metame, cet oiseau transmet l'impureté du cadavre de l'oiseau en l'avalant. Amar Rabbi Meir, Kalvachomer, je peux présenter un raisonnement a fortiori. Im nevelat behema, si le cadavre de l'animal shemetam'a bemaga uvemasa, qui transmet l'impureté par le toucher et par le transport, shritata, metaheret, trefata, mitumata, lorsque cet animal a été égorgé correctement, cet abattage purifie, donc annule l'impureté du cadavre animal, même si cet animal est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa. Nevelat ha'of, le cadavre de l'oiseau, she'eno metame bemaga uvemasa, qui ne transmet pas l'impureté par le toucher ou par le transmort. Car, comme nous l'avons expliqué, il ne transmet l'impureté que lorsqu'une personne l'avale. Enodin shetehe shritato metaheret trefato mitumato, n'est-il pas évident que le fait d'avoir été égorgé correctement purifiera, donc annule son impureté du cadavre de l'oiseau, même si cet oiseau est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa? Ma matzinu beshritato shei marcherata l'achila, de la même manière que nous voyons que l'égorgement, donc l'abattage de cet oiseau qui le permet à la consommation, ou metaheret trefato mitumato, et a aussi le pouvoir de purifier, donc d'annuler l'impureté du cadavre de l'oiseau, même s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa et par conséquent est interdit à la consommation. Af melikato, ainsi aussi la sacrification de cet oiseau en sectionnant son cou, s'il s'agit d'un sacrifice, shehi marcherato be'achila, qui le permet à la consommation, tetaher trefato midetumato, ce type d'abattage, donc de sacrification, aura le pouvoir de purifier, donc d'annuler l'impureté du cadavre de l'oiseau, même s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, et par conséquent est donc interdit à la consommation. Rabbi aussi Omer, daya kenevelat behema. Il est suffisant de dire que les lois de l'oiseau abattu sont les mêmes que celles du cadavre animal. Shritata metaharata, de même que pour l'animal, ce n'est que l'égorgement qui annule l'impureté du cadavre animal. Il en sera de même pour l'oiseau, velo melikata, mais non pas dans le cas où cet oiseau qui est un sacrifice a été sacrifié en sectionnant son cou. Nous avons donc trois avis. Selon Rabbi Yehuda, l'égorgement annule l'impureté que s'il s'agit d'un animal et non pas s'il s'agit d'un oiseau. Par conséquent, l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa aura toujours l'impureté du cadavre de l'oiseau. Selon Rabbi aussi, l'égorgement annule l'impureté, soit s'il s'agit d'un animal, soit s'il s'agit d'un oiseau. Donc, si l'oiseau a été égorgé, même s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, il n'aura pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. Mais s'il a été sacrifié à la manière d'un sacrifice, donc en sectionnant son cou, il aura l'impureté du cadavre de l'oiseau s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa. Selon Rabbi Meir, même dans ce cas, l'impureté du cadavre de l'oiseau est annulée. Nous avons vu donc dans la Mishnah que Rabbi Meir apprend par le moyen d'un raisonnement a fortiori que si l'impureté du cadavre animal, qui est plus grave car elle se transmet par le toucher et par le transport, quand même celle-ci est annulée dans le cas où l'animal a été égorgé, même s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, à plus forte raison qu'il en sera de même pour l'oiseau qui a été égorgé de cette manière. Il poursuit le raisonnement en disant que si nous voyons cela pour le cas où l'oiseau a été égorgé, il en sera de même pour le cas où l'oiseau est un sacrifice et il a été sacrifié en sectionnant son cou. Rabbi aussi réfute la deuxième partie du raisonnement en disant que lorsqu'on apprend quelque chose par le moyen d'un raisonnement a fortiori, il est suffisant que ce qu'on apprend ait le même statut que la source de l'enseignement. Donc si la source de l'enseignement, qui est l'impureté du cadavre animal, s'annule uniquement par l'égorgement, il en sera de même pour l'oiseau. Donc l'impureté ne sera pas annulée si l'oiseau a été sacrifié à la manière d'un sacrifice. Alors la Gemara demande, ve Rabbi Meir lo darish dayo, est-ce que Rabbi Meir n'applique pas ce principe selon lequel il est suffisant que ce que nous apprenons par le moyen d'un raisonnement a fortiori ait le même statut que la source de l'enseignement? Pourtant, ce raisonnement qui limite ce qu'on apprend par le moyen d'un raisonnement a fortiori, nous le voyons dans la Torah, d'Etania, car il est enseigné dans une braïta qui dit « Midin kalvachomer ketsad » comment, ou plutôt où nous voyons que nous pouvons appliquer le raisonnement a fortiori pour apprendre quelque chose. La braïta répond, nous l'apprenons du pasouk dans Bamidbar Yudbet, c'est lorsque Myriam a été frappée de lèpre parce qu'elle avait était coupable de médisance contre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a imploré la miséricorde divine pour qu'elle soit guérie. Akadosh Baruch Hu lui répond « Vayomer Hashem el Moshe, ve'aviha yarok yarak befaneha » etc. Hashem dit à Moshe « Si son père avait craché sur son visage » Le pasouk poursuit en disant « Il est évident qu'elle aurait été confuse pendant 7 jours. » La Braïta dit « Kalvachomer l'eshrina » On devrait dire qu'à plus forte raison qu'en ce qui concerne la présence divine, si elle a été punie par Akadosh Baruch Hu, donc Arba Asariom, elle aurait dû être confuse pendant 14 jours. Et là, cependant, Dayo Leba Minadin Liot Kanidon, il est suffisant que ce que nous apprenons par un raisonnement a fortiori ait le même statut que la source de l'enseignement. C'est pourquoi le pasouk poursuit, qu'elle soit enfermée pendant 7 jours comme le lépreux, puis après elle sera guérie. En tout cas, nous voyons bien ce principe que ce que nous apprenons par le raisonnement a fortiori, il est suffisant qu'il ait le même statut que la source de l'enseignement. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Meir n'applique pas cette règle? L'Agma répond « Amar Rabbi Yossi Rabbi Avin, Rabbi Meir kra arshkach ve kadarash » Rabbi Meir en fait a trouvé un pasouk et il l'interprète. Le pasouk dit dans Vaikra Yudalef « Zot Torat habema vehaof » Voici la loi concernant l'animal et l'oiseau. Le pasouk les juxtapose et donc veut les comparer. Alors la question se pose, Vechi be'ezu Torah shavta behema la'of ve'of la behema. À propos de quelle règle ou loi nous voyons que les lois concernant l'animal sont les mêmes que celles de l'oiseau ou celles de l'oiseau sont comparables à celles de l'animal. Puisque finalement, behema metam'a be'maga u'masa, l'impureté du cadavre de l'animal se transmet par le toucher et le transport, off et non metame bemaga umasa, tandis que l'impureté du cadavre de l'oiseau ne se transmet pas par le toucher et par le transport, car comme nous l'avons dit, cette impureté ne se transmet que lorsqu'une personne l'avale. Off metame begadim abet hablia, le cadavre de l'oiseau rend impur les habits de la personne qui les porte lorsqu'il avale le cadavre de l'oiseau. Behema ena metam'a begadim abetablia, tandis que l'animal ne rend pas impur les habits de la personne qui les porte lorsqu'il en avale. C'est-à-dire, si une personne plante un morceau de cadavre d'animal au fond de la gorge d'une personne, finalement, il n'a pas porté, ses habits restent purs et lui-même aussi reste pur. Car le fait de toucher au fond de la gorge qui est un endroit caché n'est pas considéré comme étant un toucher pour transmettre l'impureté. Donc finalement, en ce qui concerne les lois de l'impureté, il n'y a aucune comparaison entre celles transmises par l'animal et celles transmises par l'oiseau. Et là, plutôt, l'Omar Lecha, le pasouk vient te dire « Ma behema » de même qu'en ce qui concerne l'animal « Davar shemachira leachila » ce qui permet cet animal à la consommation « Metaher trefata mitumata » a le pouvoir de purifier, donc d'annuler l'impureté, même si cet animal est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. Af-off, il en est de même pour l'oiseau, davar shemachir be'achila, ce qui le permet à la consommation, metaher trefato mitumato, va purifier, donc annuler son impureté, même s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. Alors, puisqu'en ce qui concerne l'oiseau qui a été égorgé, nous n'avons pas besoin de ce pasouk, puisque comme nous l'avons vu précédemment, nous l'apprenons par un raisonnement a fortiori. Forcément, ce pasouk vient nous enseigner cela, même pour le cas où il s'agit d'un sacrifice, et l'oiseau a été sacrifié en sectionnant son cou, comme un sacrifice. Puisque cette action, cette sacrification, va permettre l'oiseau à la consommation, s'il s'agit par exemple d'un korban khatat, cette sacrification va aussi annuler son impureté, même s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa. La Gemara demande de Rabbi Houda, et Rabbi Houda qui pense que même l'égorgement de l'oiseau n'annule pas l'impureté du cadavre de l'oiseau s'il est atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa, maïtama, quelle est sa raison, d'où le sait-il? La Gemara répond, kra ashkach vekadarash, il a découvert un pasouk et l'a interprété. Il s'agit du pasouk dans Vaikra Yudzaïn, qui parle, comme nous l'avons dit précédemment, du cadavre de l'oiseau. Et toute personne qui mangera nevela ou trefa, le cadavre donc d'un oiseau, ou celui atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, il lavera ses habits, et se purifiera dans l'eau et restera pur jusqu'à la tombée de la nuit. Amar Rabbi Yehuda, Trefa Laman Emra, pourquoi est-ce que le Passouk mentionne le terme de Trefa, donc l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa? Im Trefa Chaya, car en fait, si nous considérons que l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend Trefa est encore vivant, Hare Nevela Amura, voici que le Passouk parle du cadavre de l'oiseau, et c'est uniquement lorsqu'il est un cadavre qu'il transmet l'impureté. De son vivant, il n'y a pas d'impureté. Im trefa en achaya, si nous considérons que l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa n'est plus vivant, harei bichla nevela, finalement, cet oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa est inclus dans le terme de nevela, cadavre d'oiseau. Il a déjà l'impureté. Et si de son vivant, il était impur, à sa mort, cette impureté ne le quittera pas. Donc pourquoi a-t-on besoin de ce pasouk? Et là plutôt, le havi trefa shecharta, le pasouk vient inclure le cas de l'oiseau atteint du blessure mortel qui le rend trefa, qui l'a égorgé, shemetama, qui transmet l'impureté du cadavre de l'oiseau. Amar le Rav Shizvi, Rav Shizvi a posé la question suivante. Et là, me'ata, si c'est ainsi que tu interprètes le pasouk, dirtiv, le pasouk qui dit dans Vaikra Zayin, Vechelev nevela vechelev trefa, et la graisse du cadavre de l'animal ou la graisse de l'animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel travail, mais vous n'aurez pas le droit d'en consommer. Ce passouk nous enseigne que si le cadavre de l'animal est impur, sa graisse n'est pas impure et peut être donc utilisée pour faire n'importe quoi. Alors la question de Rav Shizvi est Hatam Naminema. Là-bas, dans ce passouk, on devrait dire la même chose. Im trefa chaya, si l'animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa est considéré vivant, hare nevela amura. Pourtant, le passouk parle du cadavre de l'animal. Finalement, le passouk n'a aucune raison de dire que la graisse de cet animal vivant est pure. Im trefa nachaya, si nous considérons que l'animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa n'est pas vivante, hare ibichla nevela. Elle est donc inclue dans ce que le pasouk a dit précédemment, le cadavre animal. Autrement dit, nous avons déjà appris que la graisse du cadavre d'animal est pure. Il en sera de même si cet animal était atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa. Et là, plutôt, c'est cela que le pasouk voudrait dire, le havi trefa shecharta. Le pasouk vient inclure le cas d'un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, qu'il a égorgé, shechelba taor. Le pasouk viendrait donc nous enseigner que sa graisse est pure. Miklal dehi metama, donc on déduirait de là que l'animal lui-même est impur et l'égorgement n'a pas annulé l'impureté. C'est impossible, car veha amar Rav Yehuda amar Rav veamrela, il y a une autre version qui dit vematnita tana, il a été enseigné dans une braïta. Lorsque le pasouk dit dans Vaikra Yudalef vechi amut min habehema, et si un animal est mort, en fait le terme min devrait être traduit par s'il est mort une partie de l'animal. Donc, certains animaux et pas d'autres, miksat behema metama, une partie des animaux transmettent l'impureté du cadavre animal, miksat behema ena metama, et une partie des animaux ne transmettent pas l'impureté du cadavre animal, veezuzu, et de quel cas le pasouk parle, donc quel est le cas exclu par le pasouk, zut trefa shecharta, le pasouk vient exclure le cas d'un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, qui l'a égorgé, celle-ci n'a pas d'impureté. Donc finalement, on ne peut pas interpréter le pasouk de Vaikra Zayin de cette manière. Et là, plutôt, c'est ainsi que nous devons interpréter le pasouk dans Vaikra Zayin concernant la graisse. Lorsque le pasouk dit trefa, donc il parle de l'animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, miva ele, le miute tmea, le pasouk vient exclure l'animal impur, donc interdit à la consommation. Et le pasouk vient nous enseigner que la graisse du cadavre de l'animal impur est impure, au même titre que la viande de cet animal. Et c'est ainsi que le pasouk est interprété. Mi sheyesh bemina trefa, le pasouk qui exclut la graisse du cadavre d'animal parle de types d'animaux dans lesquels il peut exister un animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa. Et ce statut de trefa influe sur l'animal. Yatztazu sera exclu celle-là, donc l'animal impur interdit à la consommation. Sheyesh bemina trefa, dans laquelle il n'existe pas le principe de l'animal atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa, car de toute façon, cet animal est interdit à la consommation. Et donc, le Passouk vient nous enseigner que la graisse de l'animal impur est impure au même titre que sa viande. Et c'est cela que vient nous enseigner le terme tréfa. Hachanami, ici aussi, dans le Passouk, dans Vaikra Zayin, qui parle de l'impureté du cadavre de l'oiseau, les miouté oftame, le Passouk vient exclure l'oiseau impur, donc interdit à la consommation, chez en bemino trefa, chez lequel il n'existe pas le principe de l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, car de toute façon, il est interdit à la consommation. Et donc, le Passouk nous enseignerait que l'oiseau impur, donc interdit à la consommation, n'a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau. Finalement, on ne peut pas apprendre de ce passouk que l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa, qui a été égorgé, transmet l'impureté du cadavre de l'oiseau. L'agma répond, « Of tamé le Rabbi Houda, selon Rabbi Houda, nous apprenons que l'oiseau impur n'a pas l'impureté du cadavre de l'oiseau, minevela nafkale, il apprend du terme nevela, d'Etania, car il est enseigné dans une braïta. Rabbi Houda Omer, Yachol tehe nivlat of tame metam'a begadim abetablia. Serait-il possible que le cadavre de l'oiseau impur, donc interdit à la consommation, transmet l'impureté aux habits de celui qui les porte lorsqu'il l'avale? Talmud Lomar, c'est pour cela que le Passouk dit dans Vaikra Kavbet, qui parle aussi du cadavre de l'oiseau, Nevela utrefa lo yochal. Il ne mangera pas de cadavre de l'oiseau, ni l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend tréfa pour devenir impur. Alors, Rabbi Houda interprète le passouk de la manière suivante. Mi she isuro mishum bal tochal nevela. Le passouk parle de celui donc de l'oiseau qui est interdit uniquement à cause de l'interdiction qui le dit ne consomme pas le cadavre de l'oiseau. Yatsaze, on exclura celui-ci le cadavre de l'oiseau impur donc interdit à la consommation. She en isuro mishum bal tochal nevela, dont l'interdiction n'est pas parce qu'il n'a pas le droit de consommer le cadavre de l'oiseau, et là, mishum bal tochal tamé, mais plutôt parce qu'il n'a pas le droit de consommer de la viande d'un oiseau impur, donc interdit à la consommation. Puisque c'est ainsi, le terme de trefa dans Vaikra Yudzaïn est en plus pour nous enseigner que l'oiseau atteint d'une blessure mortelle qui le rend trefa, qui a été égorgé, transmet l'impureté du cadavre de l'animal.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.